On avait déjà fait un colloque pour le cinquantenaire de Cerisy qu'on avait appelé « Siècle, sociabilité intellectuelle, échange, coopération, lieu, extension ». Là, on a voulu prendre du recul pour s'interroger sur cet héritage culturel et on s'est d'une certaine façon réapproprié l'histoire. Et puis on a voulu savoir qu'est-ce qu'il faut absolument garder pour maintenir cet esprit, si on veut le maintenir, et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer parce que le monde bouge. Certains d'entre vous savent que moi, mon métier, c'est de faire de la prospective. Jusqu'à présent, je vivais très bien, finalement, cette idée d'être portée par un héritage culturel, d'être héritière et d'être prospectiviste. Mais je n'avais jamais regardé, malgré l'insistance de Claire, l'héritage de Paul Desjardins avec beaucoup d'intérêt. Et là, tout d'un coup, c'est peut-être l'âge venant, je me suis intéressée à ses engagements. C'est effectivement la découverte d'un Desjardins qui n'est pas seulement l'ami de la NRF qui m'a intéressée, et pour voir ce qu'on pouvait en faire. Parce que Paul Desjardins, il a introduit, quand en 1910 il a ouvert les décades de Pontigny, il avait écrit la phrase suivante qui va être très... qui jalonne cet ouvrage, si les entretiens ont été conçus avec un sens net de ce qui manque à la société contemporaine et de ce qu'elle cherche, s'ils sont soutenus par un dévouement suffisant, alors ils vivront. Donc ce colloque, c'était un colloque pour avoir, parce qu'on se posait des questions. Vous vous posiez des questions, enseignant de camp, étudiant, finalement, c'est quoi ces modalités où on nous oblige à rester une semaine ou 10 jours, c'est quoi ce modèle économique où on rétribue personne et où finalement tout le monde paye et participe aux frais, ça devient quoi avec le numérique Donc on cherchait à travailler ensemble, à réinterroger cet héritage et à se poser un certain nombre de questions. Alors, pour faire ça, par rapport à... On a donc fait tout ce que nous a raconté Claire sur retour à Desjardins, retour à Pontigny, avec ses faiblesses, ses forces, son ambiguïté. Et puis ensuite, on s'est dit, mais c'est quoi les intellectuels? Et comment ils ont bougé dans le monde depuis un siècle? Alors là, on a fait une journée animée par Françoise Gaillard, avec l'historien Pascal Horry, avec quelqu'un de la revue Esprit, Daniel Lindenberg, avec Michel Vieviorca, le CADIS et la MSH cette fois, avec Jacques Poirier de l'Université de Dijon, avec Thierry Godin, prospectiviste de Prospective 2100. Et on s'est dit finalement, qu'est-ce qui a changé dans les intellectuels? Nous dit Pascal Horry, c'est quoi un intellectuel d'abord? Pour Pascal Horry, c'est un homme du culturel qui est mis en situation d'homme du politique. Parce qu'il faut voir quand même que les intellectuels, l'affaire Dreyfus, c'est là d'où on vient, hein, Pontigny, etc. Et son modèle, c'est Vaclav Havel, d'une certaine façon, le modèle de l'intellectuel. Alors, pour Pascal Horry, l'intellectuel, il perdure, il n'a pas éclaté, il existe toujours sous des formes différentes. Mais ce qui a changé fondamentalement, c'est la moindre centralité de la pensée française. Quand à Pontigny, on réunissait cet aéropage de personnes, on pouvait parler pour le monde. Quand à Cerisy, on réunit sur certains sujets, par exemple l'agriculture et l'alimentation, si on se réunit entre francophones, on introduit un biais. Ce que nous a dit Michel Vieviorca, c'est finalement aujourd'hui, par rapport à la figure de l'intellectuel qu'on a évoqué, très souvent marquée par les grands écrivains, on a vu le rôle central de la littérature avec la NRF à Pontigny, on voit le rôle central de la littérature à Cerisy dans les années 70 avec le nouveau roman, la nouvelle critique, la revue telle qu'elle, etc. Donc il y a eu une centralité de la littérature à un moment donné, mais développement des sciences humaines et sociales, et d'après Michel Vieviorca, avec la mondialisation, le passage de l'acteur au sujet, plus d'importance au terrain et aux données, à la fois rigueur théorique et connaissance empirique, il pourrait y avoir un deuxième âge d'or des sciences humaines et sociales, à condition qu'il y ait une double reconstruction. Une reconstruction d'un espace de débat théorique, et la Cerisy peut apporter sa pierre, et puis la reconstruction d'un espace politique. Ce débat sur les intellectuels, ensuite on a vu qu'aujourd'hui quand même les intellectuels doivent avoir plus d'intérêt sur les découvertes scientifiques, sur le volet économique et aussi plus de liens avec les activités artistiques, Et Thierry Godin a terminé pour montrer comment à Cerisy, un des colloques majeurs, très tôt, de défrichage sur les sciences cognitives, s'est tenu en 1986, où est venu à peu près tous les gens qui travaillaient sur la planète, sur cette question. Alors, ensuite, il y a eu un intermède. Dans cet intermède, on avait demandé aux gens d'écrire des lettres pour répondre à Paul Desjardins, à la question que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc nous avons, avec un papier un peu différent, mis un certain nombre de lettres, on en a choisi 15, et puis une de nos amies, Catherine Espinasse, en a fait une pièce de théâtre, et il y a eu 5 acteurs, Sylvain Allemand, Armand Hatchuel, Marie-France Ionesco, Catherine Espinasse et Béatrice Lehal, qui ont joué à Cerisy cette pièce, avec un Paul Desjardins qui était
en épouvantail.
Voilà, ça c'était l'intermède. Et puis ensuite, on s'est mis à travailler sur Et Cerisy demain. Alors, Et Cerisy demain, on a eu plusieurs volets. D'abord, un volet sur les intellectuels du monde, où on avait fait venir Michel Gendron-Massalou, Xavier Norte, le directeur de la langue française et des langues de France au ministère de la Culture, Philippe Noble, qui était responsable de l'Institut français à Vienne, Françoise Allaire, qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'euro-méditerranée. Et là, on a posé vraiment la question de francophone ou pas francophone. C'est quoi la traduction ? Et finalement, il faut que chacun puisse parler dans sa langue, parce que pour énoncer des concepts, il faut qu'on parle dans sa langue et il faut que les autres comprennent. Et ça a donné, alors vous savez, Cerisy, ça s'est généré des choses, ça génère des colloques. Un colloque génère des colloques, il y a ce qu'on appelle un devoir de suite. Et donc là, on a généré un colloque qui a lieu cette année, en 2012, sur les pluriels de Barbara Cassin à partir de son dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire saisir la traduction, non pas en traduisant, mais en essayant de s'interroger sur les intraduisibles, et nous aurons ça cette année. Ensuite, nous avons eu des prospectivistes, un prospectiviste, Franck Beau, particulièrement talentueux, qui a essayé de voir comment Cerisy pourrait rester un lieu de pensée indépendant, qui joue son double rôle de défricheur et de passeur. Et alors là, il a fait un beau texte que je vous cite, « Le château aussi léger qu'est une montgolfière », et il a énoncé les 12 critères qu'il faudrait que Cerisy garde pour ou développe pour maintenir sa qualité d'indépendance et de défricheur. Alors il faut tenir le projet, être le plus léger possible, avoir un bidon d'avance, être conscient de l'improductivité de la triche, ne pas monnayer le fondamental, admettre la validité de tout contrat qui comporte une portion de sens et se limite dans le temps. Définir une politique de l'image, prendre soi-même le temps du recul, maintenir une curieuse distance vis-à-vis de tous les dogmes, conquérir une humilité sincère, travailler le point commun aveugle, être toujours plus clair. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Tenir bon. Tenir bon sur les durées. Parce que, à l'heure de l'accélération, vous avez peut-être lu ce livre Accélération d'Arnoud Troza, il faut des oasis de décélération, et moi je pense que Cerisy peut jouer ce rôle d'oasis de décélération. Les modalités économiques, est-ce qu'il faut rentrer dans un système commercial, marchand, etc. ? Non. On maintient ce principe de mutualisation fondé sur une adhésion associative. La question des intellectuels francophones, là il faut faire vraiment un effort pour arriver à attirer, au-delà des intellectuels francophones, des intellectuels du monde. Nous allons nous y travailler donc sur ce colloque sur la traduction. Nous le faisons aussi dans l'idée d'un Cerisy hors les murs, où on pourrait, dans certains instituts français à l'étranger, rendre compte de certains de nos travaux, ou en tout cas on sert déjà un peu de centre de ressources. Quand des instituts français veulent organiser un séminaire ou quelque chose, on peut donner du soutien. Donc là, il y a tout un travail à faire, et c'est de la longue haleine. Sur le numérique, c'est la séance où on s'est planté complètement. On ne l'a pas publié dans le livre. Et finalement, on n'a pas d'état d'âme sur le numérique. C'est-à-dire, on voit que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus il y a de numérique, plus on a besoin de se rencontrer et de manger l'omelette norvégienne, comme on dit souvent, à Cerisy. Donc, il n'y a pas de souci. En revanche, ça doit nous permettre de bien préparer les colloques, de ensuite bien les diffuser et de n'utiliser le moment de la présence que vraiment pour un échange et pour un débat fort. Alors Bruno Latour va plus loin, il dit les débats, on peut maintenant les faire presque aussi sur le numérique, il faut que ce soit vraiment de l'expérience. Et alors Isabelle Stengers et Bruno Latour nous préparent pour 2013, un colloque où il y aura une partie expérimentale beaucoup plus marquée que l'autre. Enfin, et je terminerai par là, il faut faire tout ce qui peut être inter. Alors interdisciplinarité, c'est difficile à dire dans une université, mais c'est vrai. On essaye dans les colloques prospectives aussi de faire de l'interprofessionnalité. Nous allons essayer d'en donner l'exemple avec notre colloque sur le renouveau des jardins. Intergénérationnel, évidemment, puisque la question, maintenant qu'on vit 15 ans de plus en bonne santé, c'est quand même de faire venir les plus anciens et les plus jeunes, et aussi ceux qui sont entre les deux. Et donc cette question de... Que ce récit, c'est finalement, je crois que vous l'avez dit, c'est à la fois un lieu et un lieu de pensée et un lieu de vie. Et c'est un peu l'intuition initiale de Desjardins, c'est pour penser ensemble ou pour penser avec ensemble, il faut vivre ensemble. Il faut prendre le temps de se taire ensemble, de prendre le repas ensemble, de faire une promenade de jardin ou même de se taire ensemble. Donc c'est cette idée que la pensée n'est pas désincarnée et elle est complètement différente selon le lieu et selon d'où la nécessité pour nous et de Cerisy aujourd'hui d'être exigeant à la fois sur les sujets, le contenu et les propos, mais aussi sur la qualité du lieu, l'accueil et l'hospitalité. Thank you.